Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Corentin Mansois, mais aussi Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, réalisée par Benjamin Hu, et mise en onde ce matin par U2 à Clopez. Dernier temps de notre semaine consacrée au secours de la planète. Lundi, nous évaluons l'Union européenne et sa capacité à sauver l'écologie politique. Mardi, les financiers et le développement de la finance verte. Mercredi, les activistes mobilisant la société civile. Aujourd'hui, place à notre dernier sujet. Les ingénieurs, peuvent-ils sauver la planète? C'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Edward Teller se disait qu'on pouvait développer différents types d'aérosols pour refroidir la planète, et peut-être d'autres pour la réchauffer, et qu'ainsi on pourrait contrôler le système climatique et choisir la température qui nous convient.
On fait venir des climatologues qui comprennent très bien le problème, et on essaie de proposer toutes sortes de solutions délirantes.
On a cherché la solution la plus pratique et la plus économique, et on a calculé la quantité qu'il faudrait. On a ainsi inventé un système qu'on a baptisé Stratoshield. On pulvérisera ces particules au moyen d'un tuyau porté par une série de ballons en forme de V. Ce tuyau ira de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère.
Ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas du tout de science climatique. Maintenant, c'est devenu un problème d'ingénierie.
Extrait du documentaire « Les apprentis sorciers du climat » qui avait été diffusé sur Arte en 2016. Carbonate de calcium envoyé dans l'atmosphère, miroir renvoyant la lumière du soleil, barrière de sable pour protéger les glaciers, nouvelle espèce OGM résistant à la sécheresse. Le génie humain n'est pas en reste, pas en panne d'inspiration pour imaginer des solutions pour réparer la planète et pour sauver notre futur menacé par le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources. Moins utopique peut-être que la géo-ingénierie globale, plus proche d'applications industrielles, les recherches et les projets de développement de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles capacités de recyclage et de nouveaux carburants propres s'empilent dans les bureaux d'études de nos savants ingénieurs. Mais n'est-ce pas chercher la solution à l'origine même de la faute? N'est-ce pas se croire sauvé par là où l'on a péché? En clair, peut-on attendre des ingénieurs et de la technique la capacité à suppléer les défaillances des ingénieurs et de la technique, précisément celle-là même qui nous ont conduits depuis l'ère des machines dans le mur du progrès? Puis enfin, la promesse technologique ne déguise-t-elle pas nos difficultés à changer nos propres modes de vie et de consommation? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord, Philippe Biwix, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur, évidemment, membre de l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées sur les issues de la société industrielle et les transitions nécessaires pour amortir le choc social de la fin du pétrole. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Le dernier en date, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, qui est paru au Seuil, mais aussi L'âge des low-tech, toujours au Seuil en 2014. À vos côtés, Régis Bridet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien. Historien des sciences, il nous fallait aussi un historien. Historien des sciences et des techniques au sein du laboratoire Passage à Pau, auteur de plusieurs articles, et notamment l'un sur lequel on reviendra aujourd'hui, qui est paru dans la revue Sociaux. Il se passe pas, Philippe Biwix, un mois, une semaine, quasiment un jour, sans qu'on voit, qu'on lise dans les médias des solutions techniques, technologiques au dérèglement climatique. On assiste à un incroyable bouillonnement de ces promesses techniques et technologiques. Vous écrivez dans votre livre, dans l'introduction, que le technosolutionnisme est partout et qu'il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette jungle médiatique entre effet de manche, dites-vous, et rupture bien réelle. Donc tout n'est pas acheté et la difficulté consiste à faire le tri.
Oui, alors on pourrait dire qu'il y a deux types de tri à faire. Il y a un tri entre des choses qui vont effectivement advenir et d'autres qui restent extrêmement prospectives, et je serais gentil en disant extrêmement prospectives. Donc si on va parler de terraformation de Mars avec Elon Musk, ou si on suit Jeff Bezos sur le fait qu'on va pouvoir peut-être avoir une civilisation galactique avec 1 000 milliards d'êtres humains, on est vraiment dans le prospectif. Et puis il y a un tri qui est effectivement sur quels pourraient être les bonnes idées techniques et technologiques, et puis celles qui, au contraire, portent en elles des effets pervers, qui peuvent être des effets déportés, des effets systémiques, parce qu'on a l'impression de régler un problème d'un côté, et on en crée un autre un petit peu plus loin.
Et comment est-ce qu'on fait le tri? Est-ce qu'on peut faire une première typologie? Est-ce qu'on peut dresser des grandes catégories dans toutes ces promesses technologiques. Vous le faites dans votre livre.
Oui, alors non, je suis pas juge unique de ces problématiques-là, mais il se trouve qu'effectivement, il faut aller très rapidement regarder ce que. D'abord, il y a des questions de faisabilité technique ou économique, c'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la géo-ingénierie, bon, vous avez cité des extraits du reportage avec ce qui se passe sur l'atmosphère. En ce moment, ce qui est très à la mode, c'est la géo-ingénierie au niveau des pôles, qui sont les pôles qui s'échauffent le plus. Alors, on voit des articles scientifiques très sérieux qui nous proposent, par exemple, de construire des barrières sous-marines pour réduire les eaux plus chaudes qui lèchent les glaciers de l'Ouest Antarctique. Alors, quand on regarde, par exemple, un papier de John Moore qui date de 2018, il propose de construire un barrage qui ferait 100 mètres de haut pour quelques kilomètres de long en sous-marin. C'est-à-dire, en gros, c'est plus que le barrage des Trois Gorges. Enfin, le barrage des Trois Gorges fait 185 mètres de haut et pour 2 kilomètres de long, là c'est plusieurs kilomètres de long et 100 mètres de haut, tout ça en sous-marin et sur le pôle sud, on voit bien qu'il va y avoir des problèmes.
C'est pas réalisable.
Le papier scientifique est très, très sympathique et permet ensuite de convertir des coûts de CO2, je sais pas quoi, ou des coûts d'évitement de CO2, mais on est un peu dans du délire. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a, me semble-t-il, un deuxième paramètre qui est la capacité à déployer à l'échelle suffisante. C'est-à-dire que après tout, les promesses sur, par exemple, les bâtiments à basse consommation d'énergie, à énergie positive, peut-être certains aspects de gains sur les voitures électriques ou autres, voire autonomes, puisqu'il y a cette promesse autour de la voiture autonome, non pas qu'elle consomme moins, mais qu'elle permette de mettre plus de personnes dans la voiture, donc de partager. Là, on est sur des problèmes de déploiement. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'inertie terrible. Et on a pris une mauvaise habitude avec le numérique. C'est qu'on a déployé à toute vitesse, on a ajouté un système technique, qui était ce système numérique, informatique, Internet mondial, à toute vitesse. Et ça s'est déployé, pas au niveau complètement mondial, mais presque. Et on croit qu'on va pouvoir le faire surtout, y compris sur le système énergétique. Mais c'est bien plus compliqué que ça.
On va revenir justement sur ces promesses et peut-être fausses promesses des nouvelles technologies. Régis Bridet, effectivement, ces dernières années, on a vu ce domaine de la géo-ingénierie particulièrement foisonnant. Il y a une multitude d'études. Il y en a une récente, par exemple, que j'ai vue récemment des chercheurs d'universités extrêmement prestigieuses, hein, Harvard, Princeton, le Massachusetts Institute of Technology, qui proposent de répandre des produits chimiques dans le ciel pour refroidir la surface de la Terre et contenir le réchauffement. C'est une proposition qui a été publiée très récemment dans la revue Nature Climate Change. C'était au mois de mars. Il y a une première expérience qui, d'ailleurs, est à l'étude. Elle pourrait peut-être être lancée après consultation d'un comité consultatif, mais on voit que ça pullule. Comment comprendre le fait que ces projets scientifiques de géo-ingénierie se multiplient précisément ? Et est-ce qu'il faut comprendre qu'au fond, dans la communauté scientifique, on a compris que la gravité de la situation ajoutée à l'inaction collective fait qu'en réalité, la géo-ingénierie devient la seule option ?
Oui, tout à fait. Philippe évoquait tout à l'heure cette tradition de la géo-ingénierie dans les pôles. En fait, on trouve ça dès les années 60 dans la littérature. Il y a l'idée de détourner le Gulf Stream, par exemple, ou de construire des grands barrages, effectivement, au niveau du détroit de Bering, etc.
Mais là, on voit bien qu'il y a un problème sur la question de la réalisation de ce type de projet. Alors qu'il y a des projets qui sont totalement réalisables en termes de géo-ingénierie, et il semble qu'ils soient désormais beaucoup plus pris au sérieux. Je me souviens, il y a 10-15 ans, quand on parlait de ces sujets, là, on disait, mais bon, voilà, c'est des scientifiques un peu fous, là, qui nous proposent tout ça. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose.
Alors, si je revenais sur les années 60-70, c'est qu'on est vraiment dans une époque très technicienne. On a en plus le complexe industriel militaire académique qui est extrêmement structurant dans les recherches scientifiques. Donc, on a toutes sortes, effectivement, de papiers sur la géo-ingénierie à cette époque-là. Ça ne signifie pas qu'il y ait énormément de mise en œuvre. Par contre, on a des expériences sur le temps. On a par exemple de l'ensemencement des nuages, qui sera d'ailleurs utilisé au Vietnam de manière controversée. Ensuite, il y a un reflux de toute cette tradition de l'ingénierie climatique dans les années 80, et puis effectivement, elle réémerge avec l'urgence climatique dans les années 90. Alors, on a encore cette tradition des Prométhéens de la guerre froide, si vous voulez, qui est là. Edward Teller, qu'on entendait tout à l'heure, enfin, on entendait parler d'Edward Teller, c'est l'un des premiers, effectivement, qui a proposé d'injecter des particules réfléchies enrichissante dans la stratosphère. Et ensuite, on a tous ces étudiants du Lawrence Livermore Laboratory, qui est initialement en fait un laboratoire militaire, mais qui ensuite a fait beaucoup de modélisation numérique aussi sur le climat. Ces étudiants comme McCracken, Caldera, qu'on retrouve parmi ceux qui promeuvent aujourd'hui ces technologies à grande échelle. Et puis, vous avez d'autres scientifiques qui, eux, sont beaucoup plus dans le catastrophisme et qui disent que c'est en dernier recours, il faudra peut-être déployer ces technologies, donc il faut s'y préparer. Par exemple, le prix Nobel de chimie 95, Paul Crutzen, est un peu dans cette ligne-là. Et donc, très souvent, les promoteurs de cette géo-ingénierie, en fait, sont pas du tout dans cette logique qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs de la Silicon Valley, etc., où il y a un côté provocateur, subversif de la technologie qui est mise en avant. Là, pas du tout, au contraire. On est un petit peu au chevet de la Terre, et on nous explique qu'on est là pour la soigner. Hein, c'est une métaphore qu'on retrouve très souvent. Et donc, on n'est pas du tout dans cette subversion, et même on cherche à rassurer sur ces technologies, notamment en expliquant qu'elles sont mimétiques de phénomènes naturels. Par exemple, injecter des particules soufrées dans la stratosphère va être mimétique d'une éruption volcanique.
Et quand on fait des choses qui ressemblent à ce que fait la nature, évidemment, c'est toujours plus rassurant. Philippe Biwix, vous avez le sentiment aussi que dans le monde scientifique, dans la communauté des ingénieurs, les choses sont en train de changer et qu'au fond, on a désormais la conviction qu'on est en train de préparer le plan B d'une certaine manière et qu'on ne fait pas des choses complètement farfelues. Les représentations ont évolué, vous avez ce sentiment, vous ?
J'ai pas tout à fait ce sentiment-là. Je pense qu'on a, au-delà de la communauté des ingénieurs, de manière, alors, les ingénieurs sont plutôt une communauté rationnelle, donc effectivement, de manière très factuelle, on voit bien que le coût climatique est parti, on voit bien que ça va être très dur d'inverser la tendance, ça va pas à la bonne vitesse. Chaque fois qu'on se rapproche de l'échéance, vous savez, il y a cette courbe qui veut que il faut émettre moins de tonnes en cumulé. Et donc, bon, voilà, plus on en a déjà émis jusqu'à l'année dernière, plus il va falloir que la pente soit raide pour redescendre. Donc, évidemment, plus la pente est raide et se rapproche, et moins elle est réaliste d'un point de vue économique et au niveau de l'inertie de notre système. Donc, du coup, effectivement, je pense qu'on a une population qui est peut-être plus sensible que la moyenne au fait que ça va pas bien se passer, qu'on va dans le mur. Et donc, on voit apparaître un discours avant le discours de la réparation, il me semble qu'on voit d'abord apparaître un discours de l'adaptation. C'est-à-dire, finalement, on va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir, adapter les types de cultures. Il va falloir protéger un certain nombre d'endroits peut-être plus fragiles, les questions du trait de côte, de l'érosion avec la montée des océans, du niveau des océans, la question des villes, comment on traite les îlots de chaleur urbains futurs, etc. Donc je trouve qu'on est dans des questions d'adaptation. Et que le discours de la réparation même, me semble-t-il, reste marginal. Le discours de géo-ingénierie, me semble-t-il, reste vraiment, comme vous le disiez, Régis, il y a un certain nombre d'écoles, peut-être, de personnes qui une petite communauté, alors c'est effectivement de plus en plus active, mais qui finalement est une poignée de scientifiques, que beaucoup de gens reconnaissent qu'on est quand même dans l'inconnu. D'une part, on est dans l'inconnu, c'est-à-dire que même si on est un peu mimétique, ça va, on ne sait pas trop ce qu'on fait.
On n'est jamais trop sûr des effets.
Et puis le problème de dire, il faut être capable de maintenir dans la durée ce dispositif de géo-ingénierie. Et donc, il faut le maintenir pendant des siècles, pendant des millénaires. Et donc, que se passe-t-il si à un moment ou à un autre, on n'est plus capable de maintenir l'injection d'aérosol à partir des avions, à partir de tuyaux?
Il y a une question aussi qui se pose, qui est peut-être importante quand on parle de géo-ingénierie. Je vous laisserai réagir, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que imaginer des choses à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, peut être compliqué. La géo-ingénierie, à l'échelle globale, ça fait évidemment extrêmement peur. En revanche, peut-être qu'à une échelle plus locale, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement imaginer. Est-ce qu'au fond, la géo-ingénierie à l'échelle locale est peut-être, elle, à envisager de façon plus calme et plus rationnel d'une certaine manière.
Oui, je ne sais pas si on peut encore parler de géo-ingénierie d'ailleurs, mais effectivement, ce qu'on a vu au cours des années 2000-2010, c'est quand même la géo-ingénierie un petit peu refluée dans la littérature et dans les grands rapports internationaux, et par contre, une émergence assez gigantesque et peut-être disproportionnée de technologies de séquestration du carbone, de capture et séquestration du carbone dans le sol, jusqu'à jusqu'à un rapport en 2014, le grand rapport du GIEC en fait de 2014, qui a promu le recours à la séquestration du carbone de manière massive et une technologie dérivée de la séquestration du carbone qu'on appelle la BECCS, c'est-à-dire on fait à la fois de la bioénergie et puis on capte le CO2 en sortie de cheminée et on le met en sous-sol et l'installation est censée produire ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire avoir un bilan carbone qui soit négatif. Alors ce rapport, enfin en tout cas les scénarios qui faisaient usage de la BECCS de manière très massive ont été très très critiqués parce qu'en fait c'est une technologie très embryonnaire aujourd'hui. Il y a quelques démonstrateurs dans le monde et puis il faut des installations très polluantes pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui la plupart en fait des projets sont aux États-Unis et en Chine sur des usines à charbon, même s'il ne faut pas que ce soit trop polluant parce que après ça pose un problème technique pour le séquestrer, mais enfin peu importe. En tout cas en Europe on n'a pas tellement en fait d'installations qui permettraient de le faire. L'Allemagne ne veut pas recourir par exemple à la séquestration du carbone alors que pour le coup elle a des usines qui fonctionnent au charbon.
Justement ça c'est intéressant parce que c'est une des catégories effectivement de technologies destinées à lutter contre le dérèglement climatique, celle liée à la captation du CO2, hein, ce que le GIEC rassemble sous le vocable technologie d'émission négative, NET pour Negative Emission Technologies. Vous dites qu'on voit les premiers programmes de recherche sur ce thème-là dans les années 70, mais que jusqu'ici, elle peine un petit peu à se développer. C'est ce que vous nous expliquez à l'instant. Qu'est-ce qui fait précisément qu'on peine, que ça reste aujourd'hui marginal, et est-ce qu'on peut croire à leur développement futur, ou est-ce que là aussi, il faut les écarter?
Bon, on voit surtout des démonstrateurs à partir des années 90. Et en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne dans un premier temps? C'est parce que la séquestration du carbone, elle peut être utile à certaines industries, en l'occurrence les industries du sous-sol, à savoir les industries pétrolières principalement, qui en fait réutilisent le CO2. Quand ils le capturent, ils peuvent aussi utiliser du CO2 naturel. Mais enfin, l'idée, c'est d'utiliser ce CO2 pour pouvoir plus facilement extraire du pétrole. Donc il y a dans cette utilisation du CO2 une forme de rentabilité, même si il faut pas s'imaginer que tous les pétroliers ont recours de manière massive à cette technologie. À ce stade, pourquoi est-ce que ça ne se développe pas plus? Eh bien, la raison principale au cours des dernières années, ça a été la crise économique, je crois, avec la chute du prix du CO2 sur le marché, ce qui fait
démonstrateurs... Si ça va mieux, ça pourrait se développer. Ce que vous dites là, vous l'écrivez, page 148 de la revue Socio que j'évoquais, vous dites, à défaut de trouver un modèle autonome de rentabilité des NET, les fameuses Negative Emission Technologies, les technologies d'émissions négatives, sur la base de leur potentiel à capter le CO2, des entrepreneurs privés misent sur les co-bénéfices commerciaux. Donc c'est peut-être ça, au fond, quand le contexte économique et peut-être politique aussi sera plus favorable, peut-être ces technologies-là se développeront davantage.
Oui, c'est possible. Et par contre, on peut tout à fait retourner l'argument. C'est-à-dire que si le CO2 voit son prix augmenter, il y aura de nombreuses technologies de type, par exemple, les énergies renouvelables qui deviendront beaucoup plus rentables. Donc, ce sera tout aussi intéressant d'investir dans ces technologies-là que dans la séquestration du carbone.
Philippe Biwik, sur ces technologies de captation du CO2.
Alors je pense qu'il y a deux éléments. C'est pourquoi est-ce qu'on émet du CO2? Alors on émet du CO2 soit parce que à l'issue du process industriel ça va devoir émettre du CO2. Donc quand je transforme du calcaire en ciment, il faut émettre du CO2. C'est même indépendant de la chaleur nécessitée. Et puis c'est la même chose quand on transforme de l'oxyde de fer en fer. Il faut prendre on prend l'oxygène qui était l'oxyde de fer et puis on va rajouter un carbone, c'est-à-dire du charbon, et ça va faire du CO2. Et puis l'autre moyen d'émettre du CO2, c'est de brûler du charbon essentiellement dans des centrales électriques. Et puis à côté, il y a le pétrole évidemment, mais celui-là, les émissions vont être diffuses dans les voitures et dans les transports. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de mettre un dispositif pour capter ce CO2, on va venir réduire le rendement ou augmenter les coûts. C'est-à-dire que l'énergie chimique qui va être extraite quand on prend du carbone, quand on le brûle avec de l'oxygène et qu'on fait du CO2, c'est-à-dire ce qu'on fait dans une centrale électrique au charbon ou au gaz, il va falloir reprendre une partie de cette énergie chimique pour pour retransformer et recapter, alors souvent avec des solvants et divers produits, mais ça va consommer de l'énergie. Il va falloir ensuite recompresser ce CO2, va falloir l'envoyer dans le sous-sol, va falloir le transporter, et ça va demander aussi de l'énergie. Donc il y a une perte assez forte, alors qui va se traduire par un problème économique, in fine, par des euros, mais c'est aussi d'abord une perte physique. Donc ça veut dire que, imaginons que toutes les centrales à charbon du monde, malheureusement, elles ne sont pas prêtes pour ça, la plupart ne sont pas transformables en des sites qui permettront de capter le CO2, mais quelques-unes le sont, mais imaginons quand bien même qu'elles le seraient, eh bien il faudrait augmenter de 30-40% le nombre de centrales, et donc la consommation de charbon chaque année, juste pour pouvoir recapter le CO2 à la sortie. Donc il y a un problème économique, mais on a aussi quand même un problème physique. Et moi je pense qu'il y a moyen de capter du carbone dans le sol, mais d'une autre manière. D'abord avec l'agriculture. Aujourd'hui, on commence à voir des pratiques alors émergentes, mais par exemple l'agroforesterie, des rotations de cultures un petit peu différentes, etc., qui permettent de capter du carbone dans le sol. Et je trouve qu'une des rares initiatives sympathiques des derniers gouvernements français, c'était cette initiative 4 pour 1000. Avec la logique de dire on va aller vers des pratiques agricoles qui vont permettre de capter 0,4% du CO2 par an, je sais pas quoi. Donc ça me paraît vraiment intéressant à creuser. Aujourd'hui, quand je vois effectivement les financements, enfin est-ce qu'il y a, il y a tellement peu de choses sur ces choses pourtant prospectives mais intéressantes. Et puis la deuxième chose, ça serait de pas déforester déjà, parce que aujourd'hui tout ce qui est libéré en CO2 par les pratiques de déforestation qui continue, voilà, c'est tout ce qu'on économiserait à la source, ça serait tellement plus simple et tellement moins cher.
Ce qui me frappe quand je vous entends et quand vous préconisez les solutions que vous préconisez, c'est qu'au fond, elles ne sont pas si compliquées. Enfin, le caractère novateur des solutions dont vous dites qu'elles sont les bonnes pistes à suivre, il n'y a pas forcément besoin de mettre des millions sur des bureaux d'études pour les développer. Au fond, il s'agit de pratiques qu'en réalité on utilise depuis bien longtemps, qu'on connaît depuis bien longtemps. Donc au fond, est-ce qu'on ne peut pas aussi globalement se passer des ingénieurs et des nouvelles technologies pour tout ça?
Alors, dans l'exemple de l'agriculture, je suis pas... Bon, en fait, je dis pas qu'il faut revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Au contraire, il faut plutôt prendre le meilleur des pratiques anciennes et puis des recherches et des connaissances qu'on a aujourd'hui.
Mais on n'a pas besoin d'inventer.
Non, mais on a besoin du courage d'innover. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique d'innovation qui est très mimétique, de mon point de vue. C'est-à-dire, le voisin fait de la blockchain, oh là là, faudrait que je fasse de la blockchain aussi. Ou mon voisin fait du numérique et des startups, et pourquoi j'ai pas mon Fab Lab? Alors qu'en fait, le vrai courage d'innover, c'est d'éventuellement pas faire comme les autres. Or, lancer des expérimentations sur de l'agroforesterie, des choses différentes, pour ne prendre que cet exemple donc de capture du carbone dans le sol, ou de reconstitution des sols, on est dans des choses qui sont pas forcément tout à fait les mêmes tendances que celles que vous voyez au salon de l'agriculture, avec les drones autonomes et les big data pour optimiser la quantité de glyphosate que vous allez mettre dans le sol.
Oui, c'est bridé.
Oui, d'ailleurs, en France, lorsqu'on parle aujourd'hui d'émissions négatives, on parle essentiellement d'agriculture et d'agroforesterie, et puis d'une meilleure gestion des forêts. Et lorsque la France se donne un objectif de neutralité carbone à 2050, ce sont essentiellement des mesures d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de CO2, et puis une toute petite part de meilleure gestion forestière. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont lancées de ce côté-là en France seulement.
Philippe Biwix, dans ce débat sur les perspectives apportées par les technologies, on a d'un côté, vous dites, ce que vous appelez cornucopiens, merci, c'est-à-dire les partisans de la corne d'abondance, et les doomdayers, les plus pessimistes peut-être, qui croient au jour du jugement dernier. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce que vous entendez par là, ce qu'il y a derrière, le rapport de force aussi entre les deux camps, si je puis dire, et comment ça pourrait évoluer?
Alors c'est un débat qui démarre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en fait, en 1948. Un monsieur qui s'appelle William Vogt publie un ouvrage qui s'appelle La fin du monde, la fin FIM, et puis Fairfield Osborne, qui est le fils d'un célèbre paléontologue américain, publie Our Plundered Planet, la planète au pillage. Et en fait, tous les deux vont lancer un petit peu le débat sur le fait que la croissance démographique alliée à la croissance de la consommation par personne va nous emmener dans le mur très rapidement. Alors, ils font des prévisions plutôt pour les années 70-80. Bon. Et alors, tout ça, ça va traverser les années 50-60-70. C'est un petit peu comme le débat dont on parlait tout à l'heure. Il va s'estomper dans les années 80 et 90 pour ressurgir seulement dans les années 2000-2010. Alors, en face de ces gens, alors, il y a des gens très célèbres, hein, Paul Ehrlich, hein, The Population Bomb en 1968, le rapport Meadows, Denis Meadows en 72, sur le fait que la croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. En face de
Donc, ces gens-là, donc, qui effectivement étaient qualifiés de prophètes de l'apocalypse, de prophètes de malheur.
Donc, les Doomsdayers.
Donc, les Doomsdayers, exactement. En face d'eux, il y a les cornucopiens. Alors, chacun avait défini le petit surnom du camp d'en face. Ouais. Alors, qui étaient des gens qui étaient plutôt, eux, pas issus des sciences dures, des sciences de la nature, de la biologie. Hein. Paul Ehrlich, hein, qui s'est spécialisé dans les questions démographiques, c'est un spécialiste des papillons au départ, hein, faut pas oublier. Alors, en face d'eux, c'est plutôt des sciences sociales. C'est plutôt des gens qui vont se déclarer futurologues. Alors, avec le complexe militaro-industriel américain, justement dans les années 50, des gens comme Herman Kahn. Et puis vous allez avoir des économistes qui vont parler presque de dématérialisation, comme on le ferait aujourd'hui. Un architecte, Buckminster Fuller, qui parle d'éphéméralisation et qui dit comme ça que, bah regardez, on avait des fils de télégraphe en cuivre, on va passer à la radio, on est passé à la radio, donc on transporte beaucoup plus de data, enfin de données qu'on ne le faisait avant avec du cuivre et on a économisé le cuivre. Donc de quoi vous plaignez-vous? On va faire de plus en plus avec de moins en moins de ressources. C'est exactement le même discours qu'on entend aujourd'hui. Et donc, l'argument numéro un, et pour pas dire unique, des cornucopiens, va être le fait que les Doomsdayers négligent le progrès technologique. Et que grâce à la technologie, grâce à ce progrès, on va toujours soit repousser la pénurie, soit régler les problèmes. Et après la publication du rapport Meadows en 72, il va y avoir les cornucopiens deviennent absolument hystériques. De nombreux papiers vont être publiés. Il y a un monsieur qui s'appelle William Nordhaus, par exemple, en 75, qui va commettre un papier en expliquant que non, on va découvrir la backstop technology, la technologie qui tue, c'est-à-dire une énergie infinie qui puise dans des réserves infinies et qui est totalement propre. Évidemment, on peut se moquer un peu de monsieur Nordhaus qui a eu le prix. Enfin, faut pas se moquer puisqu'il a eu le prix d'Ig Nobel d'économie l'année dernière. Mais pour des travaux ultérieurs sur le carbone, en l'occurrence. Mais voilà, tout le monde pensait à la fusion nucléaire, évidemment, dans les années 70. Donc cette technologie propre, elle était là. Et donc ce progrès technologique versus limite planétaire va vraiment être un débat extrêmement vif à travers des publications scientifiques ou des livres qui vont avoir un très grand succès. C'est un monsieur comme Alvin Toffler, par exemple, qui est célèbre pour avoir créé la troisième vague, notamment, dans les années 60, prédit des bases lunaires, prédit la conquête galactique avant l'an 2000, et ce sera des millions d'ouvrages qui seront vendus. Hein. Et de l'autre côté, Meadows va aussi vendre des millions d'ouvrages. Et aujourd'hui, on en est un petit peu là à nouveau, puisque en fait, le débat sur la pénurie de ressources a ressurgi avec la croissance à partir du milieu des années 2000 de la Chine. Faut pas oublier que les matières premières pendant deux décennies, 80-90, vont rester durablement très basses. Hein. Le pétrole était à $9, $9-$10 dans les années 90, au début des années 90. Et ça va redécoller et ça va recréer ce débat. Mais alors un débat qui va aller au-delà des écologistes, puisqu'il va y avoir des groupes de travail sur la question des terres rares et des métaux stratégiques au niveau de la Commission européenne, des États. Donc il y a plein de choses qui réagissent. Et la différence, évidemment, c'est que ce qu'on heurte aujourd'hui, ce sont les limites planétaires. C'est ce que nous montre le climat et l'effondrement de la biodiversité.
Oui, bien sûr. Mais alors, justement, Régis Bridet, sur ce débat-là entre ces deux camps, comment le rapport de force pourrait évoluer? Est-ce qu'à mesure, précisément, que l'on prend conscience de la finitude du monde, de la rareté des ressources, on peut imaginer que finalement, les cornucopiens, perdent un petit peu de leur poids? Ou est-ce que, au contraire, précisément, la confrontation à la rareté ne fait que les conforter, Régis Bridet?
Là, je ne sais pas si j'ai une réponse à faire spécifiquement sur ce point-là. Je voulais peut-être rebondir sur le rapport Meadows qui est...
Non mais pardon, c'est quand même important parce que je me dis qu'intuitivement, si l'on prend de plus en plus conscience que notre monde est fini, que les ressources sont limitées, cette idée qu'on va pouvoir avoir des technologies... type corne d'abondance qui nous permettent d'aller piocher sans limite dans nos ressources, cette idée-là, a priori, intuitivement, intellectuellement, elle me semble un peu légèrement atteinte, étiolée. Donc je me dis que...
Je suis pas certain. Alors, pour rebondir, pardon Régis, et je voulais très revenir sur ce que je venais de dire, mais il me semble qu'au contraire, une chose qui n'avait pas été prévue par les cornucopiens des années 50-60, malgré l'ordinateur qui était déjà là ou les prémices de l'ordinateur qui étaient là depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ce déploiement et cette fulgurance dans le numérique, cette fameuse loi de Moore, la miniaturisation des objets, la puissance de calcul, qui, me semble-t-il, a redonné des ailes aux cornucopiens, parce que finalement, qu'est-ce qui est impossible à partir du moment où j'arrive à doubler la puissance de calcul tous les 12 à 18 mois, où je peux stocker plein de choses, je vais faire des big data, même je peux mettre une puce électronique sur chaque arbre de la forêt tropicale pour le protéger, et dès que je vais entendre le bruit des tronçonneuses, je vais débarquer pour Hein, il y a même des projets comme ça, même un petit peu presque dans l'économie sociale et solidaire, je dirais. Donc, moi, je crois qu'au contraire, on est vraiment dans une logique. Aujourd'hui, il y a une puissance de feu des cornucopiens, et on parle déjà, même si on recycle pas forcément bien les métaux, pas tous les métaux pour plein de raisons techniques, on nous parle d'astéroïde mining. Il y a plusieurs entreprises qui ont réussi à lever des fonds pour aller chercher des métaux dans les astéroïdes ou sur la Lune. Donc, il y a cette logique de toujours pouvoir repousser les limites, et je pense qu'il y a...
Il y a là une vraie contradiction cognitive. Régis Bridet.
Ouais, absolument. Donc, la question du numérique aujourd'hui, elle devient assez importante, même dans la question climatique, parce que ça fait partie des secteurs très en croissance, et les émissions de gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui dépassent celles de l'aviation. On a aussi la climatisation, qui est un autre secteur émergent, juste entre parenthèses, on pourrait y revenir si vous voulez, mais l'idée là derrière ça, c'est que on a effectivement toutes sortes de nouvelles technologies qui nous promettent des nouvelles formes de gestion. Par exemple, les smart cities aujourd'hui effectivement surfent sur les possibilités du numérique. Mais il faut pas oublier aussi, et ça c'est une remarque d'historien, que en fait les technologies sont, et les pollutions sont cumulatives. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles technologies qui produisent des nouvelles pollutions, mais vous avez aussi les anciennes qui sont là. Et en fait, ces anciennes, elles se répandent souvent plus vite que les nouvelles, comme disait l'historien des techniques David Edgerton. Donc, il faut pas oublier ça. C'est-à-dire, on n'a jamais émis autant de charbon aujourd'hui, par exemple, mais la plupart des technologies qu'on utilise sont en fait des technologies anciennes. Donc, il faut pas perdre ça de vue aussi. C'est-à-dire, il faut aussi agir sur cette massification du recours à certaines technologies qui ont rien d'high-tech.
On va revenir évidemment sur cette question des nouvelles technologies, de leurs conséquences et peut-être de la nécessité de passer justement vers le low-tech, qui est une des questions que vous abordez beaucoup, Philippe Biwix. Mais il y a une question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre. Alors, pour être tout à fait franc, quand j'ai préparé l'émission hier, elle ne m'est pas venue a priori. Elle m'est venue hier soir en regardant le débat sur les élections européennes. Et elle porte sur la question de savoir si on peut positionner, au fond, sur l'échiquier politique, ce technosolutionnisme, et peut-être en particulier ces cornupiens. À la question de savoir si les différents candidats qui étaient présents sur le plateau voteraient pour l'interdiction totale et définitive du diesel à horizon 2040, Marine Le Pen a répondu que non. Et l'argument qu'elle a utilisé, c'est celui de dire précisément que d'ici là, nos ingénieurs, nos scientifiques auront trouvé des réponses pour que de toute façon, le diesel ne pollue plus comme il pollue aujourd'hui. Et là, du coup, m'est venue cette question, je me dis, tiens, je vais la poser demain. Donc, est-ce que ça a un sens de questionner le positionnement politique des uns et des autres dans ce débat-là, ou est-ce que c'est tout à fait loufoque, Philippe Biwix?
J'ai pas regardé le débat hier, mais effectivement, pour moi, la ligne de fracture entre on va trouver toutes les solutions par la technologie ou bien au contraire il faudrait peut-être essayer d'appuyer sur la pédale de frein intelligemment pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain et assumer toutes les pollutions effectivement qui ont été accumulées et dont la question climatique où le coût à nouveau est parti ou même la pollution généralisée au plastique hein, les océans etc. On sait que ça va être très difficile impossible même de les nettoyer, même s'il y a des jolis projets enthousiastes pour s'en occuper. Cette ligne de fracture là, pour moi, n'a pas émergé dans le débat politique. Aujourd'hui, tous les partis, alors peut-être que si on regardait les 34 listes, il y en a sans doute deux ou trois qui sont plus décroissantes ou plus réflexives sur ces questions. Mais non, globalement, les grands partis politiques, tout le monde est pour la logique du progrès, tout le monde est pour faire un grand programme de rénovation thermique du bâtiment, tout le monde est pour électrifier le parc. La question, c'est plus ou moins à quelle vitesse, avec quel subside public ou pas.
Et si on rentre un tout petit peu dans le détail, est-ce que je comprends là que ce que vous nous dites, c'est qu'au fond le clivage politique n'est pas apparu, mais si on regarde un peu en détail, et les cornupiens, les doomsdayers, etc., est-ce que là apparaît peut-être une forme de positionnement ou pas du tout?
Si on devait chercher quelques doomsdayers, peut-être on pourrait aller trouver un ou deux transfuges chez Europe Écologie ou chez Benoît Hamon, que sais-je, voire chez Jean-Luc Mélenchon, mais à ma connaissance, non.
Régis Bridet.
Oui, absolument, vous allez trouver effectivement... un endroit de l'échiquier politique, des gens même qui sont pour des croissances faibles, ça, c'est un peut le trouver, mais enfin, c'est évidemment très marginal et ça n'est pas très vendeur électoralement, apparemment.
Bon, donc j'avais raison de ne pas me poser la question a priori, finalement, si je résume les choses. La question des low-tech, Philippe Biwix, vous avez écrit un ouvrage au Seuil il y a 4-5 ans maintenant, L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable. Parce que c'est vrai qu'on mise beaucoup aujourd'hui sur les nouvelles technologies pour accompagner précisément la transition. Les voitures autonomes, les smart cities, tout ça va régler globalement nos problèmes. Mais ce que vous dites, c'est que ces nouvelles technologies, en réalité, nous poussent vers des tendances mortifères. Alors, qu'est-ce qui pose problème ?
Alors d'abord, il y a un sujet sur le fait que, par définition, toutes ces technologies font de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on va réussir à se déplacer autant qu'avant, à habiter des logements aussi grands, à avoir l'ensemble de la consommation qu'on a aujourd'hui, mais avec un impact environnemental qui aurait été considérablement réduit. Donc ça s'appelle de l'efficacité. Or, l'histoire montre que à chaque fois qu'il y a eu de l'efficacité technologique, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire autant ou plus avec moins, à ce moment-là, il y a aussi une efficacité économique, hein, c'est-à-dire qu'en finalement, ça coûte moins cher, puisque voilà. Et donc il y a effet rebond. Alors ça, c'est effet rebond,
c'est-à-dire.
Alors Stanley Jevons a été le premier à conceptualiser le sujet. En fait, il s'inquiétait au 19e siècle, du fait que le charbon allait finir par manquer en Angleterre, qui était un grand producteur et aussi un grand exportateur de charbon dans le monde entier. Et il a montré en fait que les machines à vapeur, donc qui consommaient du charbon, consommaient de moins en moins de charbon puisqu'on améliorait leur efficacité. Donc pour produire le même travail mécanique, on avait besoin de moins en moins de charbon. Du coup, on pourrait dire intuitivement, si j'ai besoin de moins en moins de charbon, je vais consommer de moins en moins de charbon et donc je vais repousser le spectre de la pénurie. Et lui a dit, mais pas du tout, c'est pas du tout ça qui va se passer, c'est le contraire. Puisque les machines vont consommer de moins en moins de charbon, elles vont coûter de moins en moins cher, et donc les cas d'usage vont se multiplier, et je vais donc, il va y en avoir de plus en plus, et donc globalement, même si chaque machine consomme moins, au global, on consommera de plus en plus. Et c'est évidemment exactement ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas eu pénurie de charbon en Angleterre parce que on a empilé sur le charbon d'autres énergies. C'est une autre histoire. Mais ça a été démonstration de cet effet rebond. Et cet effet rebond, il est affreux parce qu'il fonctionne partout. Alors, il fonctionne dans un secteur donné. Alors, le numérique est formidable pour ça, parce que on parlait des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique des data centers tout à l'heure. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a amélioré leur architecture, on a augmenté la température de fonctionnement, on les climatise à l'eau froide, on les installe en Islande, en Finlande, que sais-je, pour baisser la facture énergétique. Formidable. Mais pendant ce temps-là, l'ensemble des données qu'il a fallu stocker double tous les 12 à 18 mois. Donc il y a un effet rebond terrible.
Donc tendance mortifère. Régis Bridet.
Effectivement, cette question des effets rebonds, elle est tout à fait fondamentale. C'est pas toujours très facile d'ailleurs à quantifier un effet rebond. Il y a une autre question qui est assez importante, c'est celle des co-bénéfices. Au fond, si vous menez une action qui va être bénéfique pour le climat, est-ce qu'elle l'est pour la qualité de l'air, par exemple, hein? Donc, typiquement, la question du passage du diesel à l'essence ou le chauffage au bois aussi, qui peut poser des problèmes de santé publique. Voilà, donc on a aussi des arbitrages à faire de ce côté-là. Mais ce qui me paraît encore plus fondamental, c'est de réfléchir à cette sorte de disjonction entre d'un côté aujourd'hui des seuils qu'on met et puis des objectifs qu'on se donne en fonction de ces seuils et d'un autre côté ce qu'on met en face, c'est-à-dire comment on matérialise cette transition, c'est-à-dire par quoi est-ce qu'il faut qu'on passe ? Est-ce qu'effectivement il faut qu'on passe par des formes d'innovation technologique de pointe ? Est-ce qu'il faut passer par des infrastructures qui en plus ont à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être durables ? Donc lorsqu'on construit une infrastructure, effectivement, à un moment elle peut nous gêner dans 10, 15, 20 ans parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait c'était pas la bonne. Voilà, donc il y a tout un arbitrage et on revient d'ailleurs à cette question là tout à l'heure du diesel dont il faudrait ou non sortir. Il y a une question aussi de gestion des temporalités là qui est fondamentale. Bien et sûr. On peut effectivement se dire on suit le sacro-saint principe qui est né au 19e siècle des meilleures des meilleures technologies disponibles, mais reste à savoir à quelle à quelle échéance on les veut, et ça implique des investissements et ça implique toute une des politiques publiques.
Régis Bridet, en quelques mots, parce que le temps court, le temps file et on va bientôt accueillir un nouvel invité, mais sur cette transition vers disons des technologies qu'on appelle low-tech, on va pas décrire, mais en gros qui utilisent moins de carbone, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que véritablement ça se développe et est-ce qu'on peut miser là-dessus, sur cette transition vers de la low-tech?
Alors disons que pourquoi faire plutôt de la low-tech est un peu un terme un peu désagréable parce qu'on se dit retour à la caverne, à la
c'est moins novateur, hein,
voilà, donc c'est moins vendeur et c'est plus dur sans doute de lever des fonds avec des startups low-tech qu'avec des startups high-tech. Mais pourquoi? Parce que plus on va vers de la high-tech, plus on s'éloigne de l'économie circulaire. Les ressources, en fait, quand on miniaturise, quand on fait de l'électronique, quand on mélange des choses, on fait il y a 30 ou 40 métaux différents dans un smartphone, vous amenez ça dans une usine de recyclage à la pointe de la technologie mondiale, et vous allez en récupérer 10 à 15 au maximum, et encore pas 100% de ce que vous pourriez récupérer, parce que c'est trop compliqué, on a trop mélangé. Donc plus on est high-tech, quand on fait des matériaux composites, etc., plus on s'éloigne du recyclage. Donc c'est très embêtant. Donc d'où cette idée un peu provocatrice des low-tech. Alors, qui n'est pas de revenir effectivement à la bougie, mais qui est plutôt de dire d'abord, travaillons sur la question de la sobriété. C'est tellement, tellement, tellement plus simple de travailler le truc à la source. Comment faire en sorte qu'en 2050, il y ait plus de poissons que de plastique dans l'océan? Alors on se dit, ah, tiens, en fait, il faut moins pêcher de poissons peut-être, mais surtout, il faut moins produire de plastique, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher à essayer de nettoyer. Il faut juste réduire à la source, et on ne voit jamais ce type de discours-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant d'enfourcher en vélo, peut-être d'abord des voitures plus petites, plus légères, qui vont consommer beaucoup moins. On pourrait abaisser très vite les choses. Dans le bâtiment, bien sûr, il faut isoler, mais on pourrait aussi chauffer moins. On a décalé notre référence. On chauffe beaucoup plus aujourd'hui en hiver qu'on chauffait il y a quelques décennies. Donc c'est ce genre de choses-là. Et ensuite, faire des produits texte, c'est-à-dire beaucoup plus réparable et durable. Alors évidemment, il faut essayer de trier, parce que moi j'aime bien le dentiste des années 2010 avec la radio numérique, j'ai pas du tout envie de m'en passer, mais à l'inverse, il y a des choses un petit peu stupides, peut-être, dont on pourrait se passer.
Philippe Biwix, Régis Bridet, on poursuit nos interrogations. Qui pour sauver la planète aujourd'hui? Les ingénieurs. On va s'intéresser dans un instant au malaise, justement, des jeunes ingénieurs.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Si on simplifie quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. Cette vision, je la trouve étriquée. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de Centrale Nantes un laboratoire de solutions techniques, sobres et durables, de changer la donne et de co-construire un futur souhaitable où l'argent n'est plus la seule valeur. Merci.
Voilà, extrait du discours d'un jeune ingénieur, Clément Chouan, lors de sa remise de diplôme à l'École centrale de Nantes. C'était fin novembre 2018. On va retrouver Philippe Drobinski, qui est directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École polytechnique et directeur du laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Philippe Drobinski, que vous inspire ce discours de remise de diplôme de ce jeune ingénieur, et qu'est-ce qu'il vous semble révéler peut-être du malaise au sein de la communauté des jeunes ingénieurs? Philippe Drobinski.
D'abord, c'est une réaction qui me semble arriver, elle est nécessaire. C'est une réaction dans l'urgence climatique, une situation qui est compliquée pour la planète. En deux générations, on a émis autant de gaz à effet de serre qu'en 100 ans. Donc les deux générations qui précèdent cette nouvelle génération sont un petit peu responsables finalement de l'état dans lequel on leur laisse la planète. Et en une génération, on leur demande quelque part de réparer un petit peu les dégâts. Alors ce que je dis à mes étudiants, c'est vous êtes probablement la première génération à prendre conscience de l'existence du changement climatique, de comprendre que l'homme y est pour quelque chose, et vous êtes probablement la dernière à pouvoir faire quelque chose. Et ça, je pense que les élèves en ont bien conscience. Et cette prise de conscience vient en miroir aussi d'une situation anxiogène pour eux, où une grande responsabilité de la transition environnementale est dans leurs mains.
Et ça, c'est un malaise que vous ressentez aussi au sein de Polytechnique, parce que quelques mois avant ce discours, il y avait eu un groupe d'étudiants issus des grandes écoles, dont des étudiants de Polytechnique, qui avaient publié un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui invitait justement les étudiants des grandes écoles à bien choisir leurs employeurs en fonction de leurs efforts en matière d'environnement. Il se trouve qu'à Polytechnique, 25% des élèves ont signé le manifeste. C'est ce que j'ai lu dans un papier. Donc c'est un malaise que vous ressentez de façon extrêmement prégnante à l'école Polytechnique, ou au fond, ça vous paraît assez marginal?
Non, à l'école polytechnique, le comportement de ces étudiants dans nos cours sont des comportements qui sont beaucoup plus... Ils sont très proactifs, finalement, dans le cours que l'on leur délivre. Ils sont pas là, finalement, pour préparer l'examen. Ils sont plutôt là pour poser des questions, comprendre le débat, comprendre les enjeux. Et ça, par contre, c'est perceptible. C'est-à-dire que moi, en 20 ans d'enseignement, quasiment 20 ans d'enseignement, j'ai bien vu cette transition vers, on appellera ça une assistance un petit peu passive à un cours, jusqu'à une participation extrêmement à la fois éclairée, curieuse et aussi un petit peu angoissée sur la question.
Et comment justement on répond à ces angoisses et à ces nouvelles aspirations de ces ingénieurs quand on est une école comme Polytechnique ou comme bien d'autres écoles d'ingénieurs en France? Est-ce que on va mettre davantage de moyens humains, matériels sur les domaines du développement durable pour encourager justement cette fibre écologiste? Est-ce qu'on transforme tout simplement son cursus pour l'adapter à cette aspiration?
Je dirais même sur l'initiative déjà des enseignants, on a énormément renforcé notre offre de cours, des offres de cours qui visent à la fois à bien poser la question, le problème, donc qu'est-ce que le changement climatique, comment fonctionne le système climatique, mais aussi commencer à leur donner les clés vers les solutions. Donc nos cours maintenant sont très croisés entre le changement climatique d'une part, le positionnement du problème, mais aussi par exemple la transition énergétique, donc une partie de la réponse en tout cas.
Est-ce que ça vous semble suffire? Parce que moi, à Polytechnique, il y a des voix qui se sont exprimées d'ailleurs dans la presse et qui appellent par exemple à ce que les cours d'introduction au changement climatique soient dispensés dès le début de la formation à Polytechnique, sans attendre la troisième année.
Alors c'est exactement ce que l'on est en train du coup de mettre en place.
D'accord.
Suite à cette sollicitation. Nous avons mis en place un groupe de travail avec à la fois les élèves et le corps enseignant, et avec le pilotage de la direction, bien évidemment, pour mettre en place un projet de sensibilisation obligatoire dès la première année, en fait, dès ce qu'on appelle le tronc commun. Cette année, fin juin et début juillet, trois journées seront dédiées à une sorte de parcours de sensibilisation qui iront jusqu'à l'évolution du climat, les questions des ressources, les questions aussi de solutions. Mais donc, on va prendre toute la promotion qui arrive, donc 500 élèves à peu près, et pendant trois jours, on va les embarquer un petit peu dans un périple de sensibilisation aux problématiques de développement durable. Alors, cette année, ce démonstrateur ne sera pas quelque part évalué, ça ne sera pas comptabilisé finalement dans leur crédit d'enseignement à valider, mais l'objectif c'est que dans les prochaines années, enfin, très rapidement en fait, on construise un corpus de cours de base qui leur permettent à la fois d'être sensibilisés mais aussi d'être comptabilisés officiellement dans leur parcours.
Donc l'école polytechnique répond justement aux attentes et aux aspirations de ces jeunes ingénieurs. Justement, ces jeunes ingénieurs, compte tenu de ce malaise, compte tenu de cette responsabilité très particulière de leur génération que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'ils engagent un parcours professionnel spécifique, différent de celui qu'on trouvait chez leurs aînés? Ou finalement, une fois le malaise exprimé, on finit, au bout d'un certain temps, par rentrer dans le rang, si je puis dire, et poursuivre une carrière plutôt classique?
Alors, c'est pas une question facile dans la mesure déjà où il y a peu de prise de distance par rapport à cette prise de conscience et comment ça va se traduire effectivement dans les comportements. Ce qui est certain, c'est que donc il y a dans ce manifeste une prise de position, en tout cas une interrogation sur dans quel secteur d'activité, dans quelles entreprises on peut aller travailler tout en étant au clair avec sa conscience. On a en France un petit peu la culture du boycott moralisateur. Donc mon message vis-à-vis de ces élèves, c'est ne rentrez pas dans un positionnement qui soit strictement idéologique. Regardez une entreprise, parlons d'un énergéticien, enfin des grands énergéticiens, à l'époque où on ne savait pas encore ce que l'on faisait à la planète, on contribuait quelque part au développement d'une société. Mais ce qui est important, c'est pas de juger une entreprise par rapport à son passif quelque part, mais surtout de la juger par rapport à son projet de transition. Donc si la question du développement durable, c'est à la direction de la communication, effectivement, on a largement de quoi s'interroger sur le sérieux de la stratégie de l'entreprise en termes de développement durable. En revanche, si les problématiques climatiques figurent à la direction stratégique, par exemple, d'une entreprise, on peut se dire que c'est un engagement réel. Après, bien évidemment, tout prend un certain temps et on peut être critique par rapport à la vitesse à laquelle la transition se fait. Mais dans ces cas-là, les élèves auront peut-être à gagner, au contraire, à intégrer ces entreprises pour pouvoir les transformer de l'intérieur. C'est aussi important que ces entreprises puissent, sous la pression finalement des ingénieurs de haut niveau qu'elles recrutent, accélérer le mouvement et l'action.
Oui, parce que finalement, ce que vous craignez, c'est que ne se démocratise une forme de chantage à l'embauche pour les entreprises qui ne seraient pas suffisamment éco-responsables et qu'en retour, eh bien, il y a un risque pour ces entreprises de se voir privées des meilleurs ingénieurs dont elle a besoin pour opérer sa transition et pour devenir plus vertueuse. Mais est-ce que c'est une préoccupation, une inquiétude de la part des entreprises elles-mêmes ?
Alors effectivement, j'interagis avec des entreprises, non, c'est quelque chose qu'elles prennent très au sérieux. La peur des entreprises de ne plus pouvoir recruter les meilleurs ingénieurs est une réalité. Elle s'est exprimée et c'est une réalité qui est même observée. Si je prends le cas de la Chine qui a des problèmes de pollution extrêmement fortes, donc des problèmes sur la santé, certaines entreprises, malgré les salaires mirobolants qu'elles peuvent proposer, ont du mal à recruter des gens qui ne veulent plus choisir quelque part entre leur santé et leur train de vie.
Mais en même temps, sur justement le secteur de l'énergétique, il y a évidemment des entreprises dont on peut douter de leur réelle volonté de s'inscrire dans une transition écologique, tout simplement parce que par nature, elles ne sont pas enclines à engager ce virage-là. Si on prend évidemment toutes les entreprises dans le secteur des hydrocarbures, au hasard, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner.
C'est vrai et faux. J'ai pas pour l'instant, le paysage, à mon avis, varie selon les entreprises. Je n'ai pas fait l'analyse extrêmement détaillée, mais ce qui est certain, c'est que y a beaucoup d'entreprises, on va dire des énergies fossiles, déjà affichent clairement leur ambition de faire une transition déjà pétrole vers gaz. Et certaines entreprises investissent assez massivement dans les énergies renouvelables. Alors après, moi, je suis pas dans l'entreprise, je n'ai pas une vision très claire sur les stratégies de chacune. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est difficile de juger exclusivement une entreprise sur son activité présente, encore une fois. Ça s'est construit sur des décennies. Ce qu'il est important de voir et de bien appréhender, c'est avec quel engagement ces entreprises veulent participer à cette transition. Il faut savoir aussi que ce sont des entreprises, si on parle juste des pétroliers, ce sont des entreprises avec des moyens. Ils sont capables de financer cette transition-là aussi. Donc, ce sont des acteurs qui restent importants. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas forcément avoir une position un petit peu dogmatique et idéologique là-dessus. Il est très important de regarder entreprise par entreprise où se trouve leur stratégie climatique. Et c'est pour ça qu'il faut, selon moi, être aussi actif de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis à mes élèves, une fois que vous avez identifié quand même que la transition n'était pas du greenwashing, c'était bien une volonté réelle de la part de l'entreprise d'effectuer une transition. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que tout est blanc et tout est noir et que les industriels de l'extraction de gaz et de pétrole soient forcément les mauvais élèves. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'ils veulent s'engager maintenant et est-ce qu'on doit vraiment les compter dans la stratégie de transition. Certains, je pense, sont prêts à s'engager. Il faut voir à quel rythme. Et en tout cas, il faut tout contribuer pour que ce rythme s'accélère et que leur financement de cette transition soit la plus massive possible.
Each puncher of a dub-dub monster from heaven, Lee Scratch Perry.
Merci beaucoup Philippe Drobinski d'avoir été avec nous ce matin et un grand merci à nos deux invités qui étaient là avec nous en plateau, Régis Bridet, Philippe Biwix. Je rappelle pour nos auditeurs, Le Bonheur était pour demain. Philippe Biwix, c'est votre dernier ouvrage, Les rêveries d'un ingénieur solitaire. On voit le rousseauiste que vous êtes qui est paru au Seuil, la revue internationale également géopolitique de la transition énergétique, la revue Socio, la technique, y pourvoira, point d'exclamation. Vous y avez participé Régis Bridet. On va mettre toutes les références de ces ouvrages sur la page de Culture Monde, également un film dont vous m'avez parlé tout à l'heure, Régis Bridet, le titre de ce film qui est en ce moment en salle. Vous vous en souvenez ?
Non.
Eh ben, c'est pas grave. On le met en référence sur la page de Culture Monde. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Pas de question Bonjour
impossible
Brice.
Pour moi.
Non, pas de question impossible. On va parler d'Europe avec vous, Brice. Florian. Il y a une douzaine d'années, la Commission européenne déplorait le manque de mobilité géographique au sein de l'Union européenne. Où en est-on aujourd'hui ?
Oui, on rêvait de voir la main-d'œuvre migrer, comme alors aux États-Unis, vers les pôles d'emploi les plus attractifs. Eh bien, de nombreux pays membres de l'UE font face aujourd'hui au problème inverse. Ivan Krastev le relevait déjà dans son livre « Le destin de l'Europe ». Les petites nations d'Europe centrale vivent une panique démographique, voire la crainte d'une disparition ethnique. Crainte résumée d'une interrogation angoissée, y aura-t-il encore quelqu'un dans un siècle pour lire de la poésie bulgare ? Ces nations subissent un désastreux déficit des naissances. Même si l'on note une légère remontée en ce moment, peut-être due à des politiques familiales généreuses en Pologne et en Hongrie, eh bien les taux de fécondité demeurent partout très inférieurs au seuil du renouvellement des générations. Mais la cause principale de cet évidement démographique est mal mesurée. Un essayiste et économiste italien, Federico Fubini, éditorialiste au Corriere della Sera, s'est penché sur les chiffres et il en rapporte des révélations explosives. Si l'on en croit les statistiques officielles établies par Eurostat, depuis la chute du rideau de fer en 1989, ce sont 20% des Roumains qui ont quitté leur pays pour émigrer vers un autre État de l'UE. Ainsi que 12% des Bulgares, 7% des Polonais, 5% des Hongrois. Mais ces chiffres sous-estiment sérieusement la réalité de l'exode, estime Fubini. Et ils font l'impasse sur l'émigration de nombreux habitants de l'Europe du Sud, comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie, vers les riches pays du nord de l'Europe. En réalité, estime Fubini, on devrait doubler ces données pour obtenir les pourcentages exacts. Eurostat ne comptabilise en effet que les personnes qui déclarent leur départ auprès du gouvernement de leur pays. Ainsi, l'Italie a communiqué pour 2017 le départ pour la Grande-Bretagne de 22 000 de ses nationaux. Mais de son côté, le département du travail britannique a comptabilisé pour la même année l'arrivée de 50 000 arrivants en provenance d'Italie, deux fois plus. Et l'Office allemand des statistiques, Destatis, estime l'immigration en Allemagne de citoyens provenant des autres États membres de l'UE entre 2008 et 2017 à 2 700 000 personnes. Ainsi écrit Federico Fubini, les nouveaux membres de l'État, de l'Union, pardon, les nouveaux États membres de l'Union ont fait à la plus puissante économie du bloc européen une double faveur. Car non seulement ils compensent le déclin démographique de ce pays et son vieillissement, mais ils lui ont fait économiser des frais d'éducation et de formation. En outre, ces immigrés européens ont investi leur épargne dans leur nouveau pays. Et ainsi, Fubini estime-t-il à près de 200 milliards d'euros le bénéfice pour l'économie allemande. Alors ceux qui poussent de hauts cris à la perspective d'une union de transfert devraient bien avoir ces chiffres en tête.
Et on aurait pu ajouter la Grèce aussi, très concernée bien sûr par l'exil à cause de la crise économique bien sûr. Alors les effets sur les pays de départ, Brice?
Un effet politique tout d'abord, car ce sont les plus jeunes et les plus diplômés qui partent vers les meilleures opportunités de travail dans les riches pays de l'Ouest et du Nord. Ceux qui restent se sentent abandonnés, ils sont anxieux. Krastev le disait déjà. Cela explique le tournant autoritaire et conservateur pris par ces pays, de la Pologne à l'Italie. Voyez ce sondage. 52% des Italiens soutiendraient une loi rendant l'émigration hors du pays illégale. Et c'est aussi le cas de 50% des Polonais et de 49% des Hongrois. Mais il y a pire. Certes, le revenu moyen annuel des pays d'Europe centrale a beaucoup progressé depuis leur adhésion à l'Union européenne, mais il demeure inférieur de plus de 40% à celui des riches pays de l'Ouest et du Nord de l'Europe. Et surtout, les salaires y demeurent désespérément inférieurs, très inférieurs. Et c'est ce qui explique la délocalisation des grandes entreprises, notamment automobiles. Ainsi, Audi fabrique ses moteurs à Győr, en Hongrie, mais monte ses voitures en Bavière. Résultat, c'est en Allemagne que l'entreprise paye l'essentiel de ses impôts. Car, nouvelle révélation, les pays d'Europe centrale se livrent entre eux à une concurrence effrénée pour attirer les industries ouest européennes. Elle passe par la faiblesse des salaires, mais aussi, et c'est beaucoup moins connu, par des facilités fiscales. Finance Uncovered, un pool de journalistes économiques basé à Londres, qui a enquêté sur ces pratiques de dumping fiscal, a révélé que BMW avait ainsi mis en concurrence la Slovaquie et la Hongrie pour y installer une usine. Le gouvernement slovaque avait proposé un rabais de l'impôt sur les sociétés de 35%. Ce sont les Hongrois qui ont emporté le contrat en promettant eux 50%. Alors, effet direct ou indirect plutôt de ces petits arrangements fiscaux entre amis, ce sont les contribuables locaux qui paient la différence. La TVA est très élevée dans la plupart des pays d'Europe centrale. Sans remettre en cause la légitimité des fonds structurels européens qui aident en effet ces pays à se mettre au niveau, Federico Fubini fait observer qu'il contribue au maintien de cette situation.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.